Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café. Bondy Blog Café.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondy Blog Centre Café enregistrée le lundi 11 mars 2019. Cette émission va être présentée par Léonie, ça s'appelle le Slam face à l'actu.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nos auditeurs et aussi à nos trois invités que sont Ange, qui est éducateur PJJ dans un EPM, établissement pénitentiaire pour mineurs, avec Younes aussi qui est conseiller en insertion professionnelle.
Bonsoir.
Et Junkie Palace, qui est technicien image et son. C'est bien ça ?
C'est ça.
Ok, alors nous sommes là aujourd'hui pour présenter chacun un texte de slam et puis pour débattre un petit peu autour de ces sujets d'actualité que vont chacun nous présenter nos slameurs et puis par la suite aussi parler un petit peu de la scène slam orléanaise et de son évolution. Alors, Ange, est-ce que tu voudrais bien nous présenter ton texte, s'il te plaît, toi qui es là dans la scène slam orléanaise depuis longtemps.
Oui, avec plaisir, on est là pour ça. Du coup, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Du coup, voilà, Ange Minkala, je me présente rapidement, même si ça a déjà été fait. Du coup, oui, je suis éducateur à la PJJ dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, du coup une prison pour mineurs. Et j'anime aussi des ateliers d'écriture dans différentes structures pour tout public. Voilà, j'ai fait des écoles, des hôpitaux, des prisons, des foyers, voilà tout. Et du coup, je vais commencer par mon slam. Du coup, c'est moi le premier. Voilà, donc l'émission s'appelle Slam Actu. Et voilà, donc je vais sortir un texte sur l'actu. Qui s'appelle, voilà, que j'ai écrit après avoir été sur les manifestations des Gilets jaunes à Toulouse.
On t'écoute.
Je suis en mission sur les Champs-Élysées. Ma journée commençait bien avec ma fille, un petit baiser au programme Pas de brasier. Manif anti-BCBG. T'inquiète pas ma chérie, y'aura même pas de blessés légers. J'enfile mon uniforme au cas où je mets mon gilet. Sous mon casque un bonnet histoire de pas trop me les geler. Le temps est assez clément, gros soleil et vent léger, c'est rare car en décembre, les routes sont souvent enneigées. Je rejoins mes collègues et on attend les ordres. Le chef arrive nerveux et nous dit que c'est le désordre. Aujourd'hui, attendez-vous à ce qu'on vous frappe, à ce qu'on vous morde. Dehors, c'est la guerre. Dehors, c'est la révolte. Je mets un pied dehors et je vois des regards hostiles. Mais je ne suis pas surpris, il impressionne notre style. Casque, bouclier et protection même aux épaules, matraque à la ceinture et pour certains, des flashballs. Les gens arrivent nombreux et une couleur est dominante. Ils sont tous vêtus de jaune comme les joueurs du FC Nantes. La manif est pacifique, pas de raison que ça dérape, on est dans la plus belle rue du monde. Pas dans une émeute à trappe. Mais très vite, ça s'emballe, ça se réglera pas sans balles. Ils militent pour 500 balles et c'est sur nous qu'ils s'empalent. Le bruit des briques sous le bouclier résonne comme des cymbales, des doigts d'honneur comme des symboles. Certains nous crachent dessus et s'enfuient vite comme Usain Bolt. Et là, la haine prend le dessus. Je suis là pour protéger le peuple et ce dernier me chie dessus. S'il pensait que je n'agirais pas, je vais faire des déçus. Le prochain qui s'approche de moi, il sera bien reçu. Pourtant, je comprends ce qu'il revendique. Chaque jour, je risque ma vie et je ne touche pas loin d'un SMIC. Je fais à ta d'heure sup, mais l'État me taxe mon fric. Je me bats à vos côtés, pourquoi me lancez-vous ces briques? Je vous vois tous ensemble, main dans la main. Gilets jaunes, malgré vos convictions, loin d'être homogènes. Je suis avec vous, mais vous ne le comprenez pas. C'est parce que j'ai peur que je vous lance ces grenades lacrymogènes. J'ai peur que le mouvement parte en vrille. J'ai peur de ne plus jamais revoir ma fille. Ses cheveux, ses yeux qui brillent. À mes côtés, des collègues qui ne pensent pas tous comme moi. Ils ne pensent qu'à la violence et à la prime de fin de mois. Ceux-là ne ressentent rien, pas d'émotion, aucun émoi. Ils attrapent un manifestant et lui sautent dessus à trois. Et là, je craque. Je craque car on est 500. En face, ils sont au moins 10 000. Je craque car à présent c'est à l'ennemi qu'on m'assimile. Je craque mais je ne poserai la main sur aucun de ces civils et je craque. Quand je vois dans quel état est notre si belle ville. Mais ils l'ont bien cherché là-haut, au gouvernement. Ça fait des décennies qu'ils nous pillent ouvertement. C'est eux qui ont raison. Il est temps de faire tomber les masques. J'enfile mon gilet jaune et je retire mon casque. Merci.
Alors, un slam qui n'est pas sans nous rappeler l'actualité passée du samedi 9 mars ou celle à venir du samedi 16 mars. C'est un rendez-vous maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, que se sont donnés plusieurs citoyens français en revêtissant ce chasuble fluorescent. Voilà, pour contester contre des injustices. Ils réclament plus de justice sociale, de justice fiscale. On peut peut-être faire un tour de table sur vos réactions face à ces actualités, à ce mouvement des Gilets jaunes. Léonie, Younes.
Ce mouvement qui a commencé en novembre, si je ne me trompe pas. S'il a commencé avec toute cette rage, c'est qu'il y avait quelque chose d'important. Si tout un peuple se manifeste d'une telle manière, c'est qu'il y avait quelque chose. Après, avec le temps, comment ça a évolué, je ne sais pas trop.
Ange, tu as choisi d'enlever ton masque pour mettre un casque. Non, d'enlever ton casque, non, d'enlever ton masque pour mettre un casque. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ce texte ?
Pourquoi ce texte ? En fait, c'est que je me suis rendu du coup en décembre sur les manifestations à Toulouse. À Toulouse, c'était une des villes où il y a pas mal de, ça a pas mal bougé par là-bas. Et c'est vrai que j'ai été choqué par pas mal de choses. Enfin, choqué. J'ai été déjà agréablement surpris par la solidarité entre les manifestants. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. Je trouve ça bien. Sans dire pour, si je suis pour ou contre. Bon, j'y étais en tout cas parce que j'avais aussi des choses à dire et des choses à revendiquer. Je me suis vite retrouvé dans la situation des manifestants, c'est-à-dire à voir des agressions qui arrivent de je ne sais où, à recevoir des grenades lacrymogènes et tout ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Je suis né en France et de voir le pays dans cet état-là et de voir à quel point l'État peut maltraiter son peuple, ça m'a quand même fait mal. Voilà. Donc après, on peut être pour, on peut être contre, mais il y a des gens qui souffrent. Et ça, on peut pas l'ignorer. Mmh. Et ensuite, ce texte, parce que en fait, j'ai aussi remarqué, il y avait les manifestants, et il y avait l'autre à côté les CRS, du coup, qui étaient là comme des ennemis. Et j'ai trouvé ça, et ça m'a marqué parce que c'est des êtres humains, c'est des gens qui sont là, qui galèrent aussi sûrement comme nous, parce que on sait très bien que la police en France, les CRS ne sont pas non plus payés comme ils devraient l'être, parce que voilà, ils prennent des risques tous les jours, comme j'ai pu le dire dans le texte. Et ça m'a marqué parce que il y a cette violence, ils étaient victimes de violence, ils eux-mêmes violentent un peu la population. Mais je me demande, en fait, dans leur tête, qu'est-ce qui doit se passer? Je me suis demandé comment ils pouvaient en arriver à mettre des coups à des manifestants qui se battent pour les droits, nos droits, leurs droits, les droits de leurs enfants. Et donc il y a eu ça. Et puis du coup, le lendemain matin de la manifestation, je me suis mis sur Facebook et j'ai une amie, en fait, qui a son mari qui est CRS et du coup qui se rendait sur les manifestations. Elle a publié une photo de leur famille, de elle, de lui avec les deux enfants, en mettant « n'oubliez pas ». C'est-à-dire « n'oubliez pas qu'eux aussi sont des hommes, qu'eux aussi sont des pères de famille et qu'ils ne sont pas que des monstres ». Et du coup, voilà, ça a joué dans ma tête. Je me suis dit, il fallait que j'écrive. Et plutôt que d'écrire un texte, comme on a pu entendre ces derniers temps, sur les gilets jaunes, avec les revendications et tout ça, j'ai préféré prendre un peu le contre-pied de tout ça et de me mettre à la place de ce policier qui, lui, fait son boulot, souffre et est d'accord un peu avec ce qui se passe en face, mais il doit faire son boulot. Voilà l'équilibre qui est un peu faussé. Donc voilà.
Il n'y a pas un côté schizophrène en devant être en arrêtant d'être un être humain à partir du moment où on enfile l'uniforme pour frapper ses semblables? C'est l'uniforme qui justifie les actes.
C'est exactement ce qui m'a heurté. C'est vraiment ce que je me suis posé comme question. Je me dis mais il y en a sûrement qui sont d'accord avec certaines revendications, qui ont peut-être envie de se plaindre aussi. le fait de taper des gens qui manifestent aussi pour, voilà, c'est comme j'expliquais là, ça m'a un peu perturbé, ça me perturbe toujours en fait. Le texte m'a pas permis de trouver des solutions, mais en tout cas j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de mettre en mots, et ça a peut-être permis aussi à certains d'ouvrir les yeux sur cet angle de vue qu'on n'a pas, qu'on a rarement. Les policiers sont les monstres, mais en fait ce sont des êtres humains, donc qu'est-ce qui peut passer par la tête. Et du coup le mari de mon ami a entendu le texte et il s'est reconnu parce que voilà, lui aussi il voit ce que font certains de ses collègues, il voit que lui aussi il a agressé alors qu'il est d'accord avec les gens qui peuvent l'agresser. Du coup c'est une espèce de voie sans issue et
ouais, ça doit pas être facile à vivre.
Ça doit pas être facile à vivre. Du coup, voilà, c'était un texte.
D'accord.
Je suis pas pro police, je suis pas, mais voilà, fallait que j'en parle.
Voilà. En fait, moi, la première question qui m'est venue à l'esprit en écoutant ton texte, c'était finalement, je pense que c'est ce que tu soulèves, c'est la question de l'escalade de la violence. Finalement, c'est toujours difficile de dire qui c'est qui a commencé. On peut pas dire qu'il y a que des mauvais flics. Je pense que ça serait un mensonge. Ton ami en est témoin. Et à l'inverse, c'est compliqué de dire tous les manifestants sont responsables aussi, parce que c'est pareil, il y a des gens bien et il y a des gens mal intentionnés. Au final, ça soulève un point que je trouve très intéressant, mais qui n'a pas de réponse, comme tu évoquais. C'est ce problème de communication qui est de base dans la manière de revendiquer, qui est toujours compliqué, notamment parce que tu évoquais qu'ils ne sont pas forcément tous d'accord, mais ils sont tous sous le gilet jaune, ou c'est peut-être toi qui le revendiquais, je ne sais plus. Et de l'autre côté, la difficulté de faire comprendre aussi qu'il y a des choses des débordements à pas avoir lieu. Et finalement, cette communication, cette hyper communication, elle est pas par les gens concernés. Il y a très peu la police, les acteurs, je parle ceux qui sont sur le terrain, qui ont la possibilité de s'exprimer. Je crois même qu'ils ont un droit de réserve, si je dis pas de bêtises. Et à l'inverse, les gilets jaunes, c'est compliqué aussi de les laisser s'exprimer, parce qu'il y en a plein. Et qu'à la fois, ils veulent pas revendiquer le leader, ce qui peut être une très bonne chose. Au final, les gens qui accaparent la parole sur ce conflit, c'est des politiques, c'est des chefs d'entreprise, c'est des médias, c'est des gens qui sont finalement pas au cœur de ce conflit, ou en tout cas, sont assez haut placés pour ne pas être au sein du problème. Et finalement, on est sur une hyper-communication, mais les gens qui communiquent, c'est pas les gens concernés. Et finalement, ça facilite cette escalade de la violence. Ça fait que la personne qui est dans un camp, on lui dit « Oh là là, regardez l'autre comme il est vilain, frappez-lui dessus. » Et on peut juste créer encore plus de conflits dans cette hyper-communication, mais qui n'est pas par les gens concernés, finalement.
Y a le travail de David Dufresne, un journaliste qui a recensé tous les actes de bavure policière et d'agression, donc au flashball, aux grenades, etc. Il en est à plus de 500 aujourd'hui, hein, ça ne cesse de croître de semaine en semaine. Et c'est vrai que son avis est beaucoup plus légitime que celui de Christophe Castaner, qui voit ça à travers son écran et en tant que ministre de l'Intérieur se permet de monter les uns contre les autres. Tout à l'heure, excuse-moi, tu as parlé de sujets qui divisent. On est pour ou on est contre, quand même, les gilets jaunes. Je ne sais pas ce que vous en pensez en France. J'ai l'impression que c'est un sujet qui divise. On est pour ou on est contre. On n'a pas le droit d'être ni pour ni contre ou d'être pour et contre. Vous pensez qu'il y a une troisième possibilité?
Non, je pense qu'il y a... Oui, on peut être pour, on peut être contre. Après, on peut aussi... Il y a pas mal de nuances, parce qu'on peut être pour... on peut être pour certaines revendications contre d'autres, on peut être pour toutes les revendications mais pas par la manière dont c'est amené, comme tu as pu le dire tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça divise, mais bon, c'est là où on peut faire une distinction entre manifestation et révolte. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une révolte, une révolution, où chacun vient avec sa revendication, et forcément, je suis pas forcément d'accord avec la revendication de mon voisin, mais comme tous les deux on a envie de se faire entendre, et ben on se révolte ensemble.
C'est vrai que je suis d'accord avec le fait que c'est assez compliqué en fait de dire si on est pour ou contre. Je suis pas sûre qu'il y ait soit l'un soit l'autre, hein, même si ça divise, parce que enfin personnellement au départ dans le mouvement des gilets jaunes j'y comprenais quelque chose, et puis petit à petit il y a de nouvelles revendications qui sont apparues et puis d'autres mouvements qui sont entremêlés à ça, et ça a entraîné pas mal de confusion pour ma part, donc je me suis un peu éloignée de tout ça, et surtout cette haine anti-police toujours, je trouve que ça a biaisé aussi quelque part le mouvement, parce que les revendications de départ des gilets jaunes c'était pas de dire que la police c'était de la merde, quoi. Enfin, clairement dans le discours c'est pas ce qu'on entendait, et en me connectant de plus en plus sur les réseaux sociaux j'ai été amenée à voir de plus en plus de revendications qui tournaient autour du respect de la part de la police, alors que c'était pas l'objet principal de la manifestation. Et je trouve même que ça fait dévier complètement en fait le sujet, parce que les médias renvoient des choses qui sortent même du sujet de départ des revendications des Gilets jaunes. Personnellement, quand je suis sur les réseaux sociaux et que je passe mon temps à voir des photos d'hommes à terre blessés soi-disant par la police, mais alors qu'on n'a pas d'informations véridiques et que là, on le sait, je pense tous ici, que la photo peut être très bien transformée pour y voir quelque chose. Et finalement, en effet, ce sont pas non plus les intéressés principaux qui en échangent non plus sur les réseaux sociaux. Enfin, je vois des gens qui sont pas spécialement concernés ou manifestants dans cette actualité des Gilets jaunes et qui pourtant sont en train de parler de cette haine de la police, sont en train de parler des casseurs, etc. Ils prennent part dans quelque chose qui ne devrait pas appartenir au mouvement, en fait, selon moi, et qui devient une part même du mouvement, et je trouve que ça nous fait déraper et ça nous fait perdre le fil, finalement. Donc je ne suis pas pour ou contre, enfin, c'est très compliqué de prendre place.
Alors, pour terminer sur le sujet, tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu es né en France, Ange. Alors les auditeurs peuvent pas le savoir, mais à mon avis tu as des origines africaines,
ouais,
n'est-ce pas,
voilà, des parents
et ça me rappelle moi le mouvement, je sais pas si tu as connu, il y en a marre, qu'il y avait eu en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays africains.
Plusieurs pays africains, oui, il y a eu,
voilà,
Sénégal,
ou alors le mouvement aussi qu'on a vu dans les départements d'outre-mer, l'IC a profité.
Exactement, qu'il y a eu en Guyane aussi. Oui, oui, non, mais c'est un ras-le-bol.
Ça y ressemble un petit peu, c'est un ras-le-bol.
C'est un ras-le-bol général, en fait. Chacun, voilà, tout le monde prend sur soi. Il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, la goutte d'eau, c'était le gasoil et l'augmentation. Pour les raisons qu'Emmanuel Macron aime bien évoquer. Du coup, c'était ça la goutte d'eau. Et voilà, le vase s'est renversé. Et puis là, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Et puis, c'est exactement ce qui s'est passé avec le mouvement Y en a marre en Afrique.
Par exemple, où Lick a profité justement en Martinique-Guadeloupe aussi. D'ailleurs, ça commence souvent là-bas et ça arrive après en métropole quand
même. Exactement. Mais même là, les Gilets jaunes, ils étaient très actifs
à
La Réunion notamment. Mm-hmm. Je sais que j'ai ma femme qui s'est rendue à La Réunion la première semaine des Gilets jaunes, donc elle n'a pas trop profité du voyage. Mais c'est vrai qu'ils étaient très, très, très actifs dès le départ. Là où, ici, ça s'est monté crescendo. Ouais. Là-haut,
beaucoup de répression aussi dès le départ là-bas.
C'est ça.
Voilà. Et pas dans la même forme que celle qu'on a pu connaître en France dans les semaines suivantes. Ça a été dès le début.
Ouais, c'est ça.
Voilà, très, très violent. Le slam face à l'actu, c'est des sujets, c'est de l'actu. Donc là, on a évoqué ce qui se passait les samedis. Et ce vendredi 15 mars, il va y avoir la marche pour le climat. Et c'est au tour de Younes de nous présenter son slam.
Oui.
Avant de développer le sujet.
D'accord. Donc je vais commencer. Je vis un rêve. Comme si c'était la réalité. Et je fuis la réalité comme si c'était juste un rêve. On Photoshop nos compétences et on modifie une partie de nous-mêmes. En cachant la moitié de ce qu'on pense. Et voilà, on perd celui, celle ou ce qu'on aime. Il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a que moi qui vais de l'avant. J'ai de bonnes raisons d'adopter mes besoins et malgré tout, je suis toujours décevant. Je fais partie de cette terre, je fais partie de ce monde, quoique l'univers soit à l'infini, mais je me sens seul, je me sens tol, je ne sais qui je suis, je ne sais qui nous sommes. J'ai entendu le cœur de l'arbre battre, je l'ai entendu respirer. J'ai senti le cœur de l'arbre battre. Je l'ai senti respirer. J'ai senti les poils de cet animal. J'ai senti que profondément il est en train de pleurer. Mais je ferme les yeux. Et je dis que j'en ai rien vu. Le ciel est bleu, mais peut-être demain il ne sera plus. Le monde de demain est déjà présent. La vie est belle, mais on ne lui donne plus raison. Il ne faut pas renoncer à son bien-être. Mais il ne faut pas non plus manger sans chez soi. À nos enfants, que va-t-on leur laisser transmettre à part des mains sales où il ne restera seulement que deux doigts? Mais on en a marre de l'un ou l'autre, mais on veut l'un et l'autre. Il n'est jamais, jamais trop tard pour bien faire, alors menons le même combat afin d'éviter l'enfer. Entre les enjeux climatiques et écologiques, c'est un désastre, mais on perd seulement quand on cesse de se battre. Et alors, et alors, et alors, et alors on pose des questions pour ne pas y répondre. Ma cause est la raison et j'y suis pour la défendre. Mesdames et messieurs, malgré nos soucis, malgré nos différences, nous ne faisons qu'un. Aujourd'hui, il n'est plus question d'humanité, mais de tous les êtres vivants, de tous les terriens, de tous les terriens.
Des réactions.
J'aimerais bien savoir ce qui t'a inspiré, Younes, dans ce texte, ce qui t'a inspiré à faire ce texte plutôt.
Depuis toujours, je me suis intéressé à l'écologie en général. Je pense que c'est un sujet qui doit intéresser tout le monde. Sauf pourquoi et de quelle raison ça m'a inspiré. Je me suis dit, allez Younes, t'écris un texte sur l'écologie, pourquoi pas. C'est que pendant ma formation de CIP là, on a un formateur
conseiller en insertion professionnelle.
Oui, de conseiller en insertion professionnelle, excusez-moi. Et on a un formateur qu'on a eu ce débat sur l'écologie. Et ça m'a vraiment éveillé un peu à l'esprit en disant, par exemple, dans moins de 40 ans, on n'aura plus de l'eau douce. Bah, j'adore boire, quoi. J'adore l'eau. Et je me suis dit, mais dans 40 ans, possiblement que je serai encore en vie. Je vais faire comment? Je dois être riche. Ça va se passer comment? Il n'y a toujours pas de solution. Et c'est un sujet, par exemple, qu'on n'en parle jamais, jamais. On parle du climat, on parle un peu de tout, mais on ne parle jamais de l'eau. Jamais. C'est comme si l'eau douce, c'est pas un problème. Alors, donc, ça m'a éveillé de regarder des émissions encore plus, de lire des articles et tout. Et comme il y avait le concours du talent show le 26 février, si je ne me trompe pas.
Au théâtre Gérard Philippe à Orléans-la-Source.
Exactement. Alors, comme j'étais en finale, donc je me suis dit pourquoi pas je présente ce thème de l'écologie en finale. Bah, c'est un sujet très intéressant qui concerne tout le monde.
D'accord, merci.
Voilà, j'en prie.
Junkie Palace, tu te sens concerné?
Oui, oui. De manière générale, l'écologie a toujours été quelque chose qui me concerne dans le sens où au final... déjà, je vais partir d'un constat alarmiste, mais que beaucoup d'experts tirent, disant que on consomme trop, etc. Je veux dire, il est inutile de rappeler qu'il me semble que c'est au mois d'août qu'on a usé toutes les ressources que nous offre la planète pour un an, donc on vit à crédit. C'est-à-dire qu'en l'état actuel, même si aujourd'hui on prenait une consommation responsable, beaucoup d'experts s'accordent pour dire que c'est déjà trop tard, on a flingué la planète. Donc je suis à la fois un peu pessimiste et à la fois je me dis c'est pas parce que le constat il est négatif qu'il faut continuer de tirer sur l'ambulance. Donc du coup c'est un sujet qui me concerne et finalement dans ma consommation j'essaie d'agir à ma hauteur et de convaincre si possible. Voilà, ça passe par une consommer local, ça passe par consommer bio, ça passe par à titre personnel, je ne consomme pas de produits animaliers, mais même ne serait-ce que les réduire, ça a un impact énorme sur l'écologie. Et je rebondis sur ce que tu disais, sur l'eau notamment, parce que justement, la viande bovine est une des principales consommatrices d'eau. Voilà, tous ces éléments-là. Donc du coup, effectivement, c'est un sujet qui me concerne beaucoup et pour lequel je cherche à avoir une autorégulation pour avoir le minimum d'impact sur la planète. Et j'ai pas d'enfant, j'en souhaite pas, mais je me dis que qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants?
Parce que tu crains pour l'avenir de la planète que tu ne veux pas avoir d'enfants?
C'est plus compliqué que ça, mais oui, ça fait partie de l'équation.
Ça fait partie de l'équation, d'accord. Ange, toi, tu as choisi, on a écouté ton slam tout à l'heure, tu as choisi d'être père. Ton avis sur la question, tu te sens concerné par l'écologie?
Je suis concerné, oui, pareil, et oui, je suis père du coup.
Non, mais concernant ta fille, justement, est-ce que
c'est vrai que être père, forcément, ça fait penser différemment sur pas mal de choses, hein, que ce soit dans le monde professionnel, dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que tout ce qu'on entend par rapport à l'écologie, par rapport à la planète, comment on va la laisser dans quelques années, c'est vrai que ça, forcément, ça impacte sur notre jeunesse, sur nos enfants, sur les petits-enfants et sur l'avenir. Du coup, c'est assez inquiétant. Du coup, comme je ne suis pas là, j'essaye à mon échelle, moi, de faire le nécessaire pour consommer moins, pour essayer d'être en accord avec ce que je pense et mes idées. Mais c'est vrai que c'est assez difficile et je ne veux pas être pessimiste non plus. Mais c'est comme le climat, le climat et etc. On a, avec le progrès, il y a un nouveau rythme de vie qui s'est installé et je ne sais pas comment on va pouvoir faire marche arrière, quoi. C'est ça qui est assez inquiétant. Parce que ça fait des années et des années qu'on entend que les choses sont en train de s'aggraver, mais à aucun moment, ça ça perd en vitesse, quoi. Ça, ça recule pas. Et du coup, c'est triste, ouais.
Dans plusieurs pays européens et en France notamment, il va y avoir ce vendredi 15 mars une démarche de la jeunesse pour le climat. Votre avis là-dessus, la mobiliser la jeunesse dans la rue, pour ou contre?
Pour, mais je reste sur mon constat pessimiste, mais finalement, la problématique, je n'ai pas les chiffres en tête, mais en termes de pollution, en termes d'impact sur la planète, chacun, on peut se réguler, on peut faire des choses, mais ça passe par des gros pollueurs, des grosses industries, je ne citerai pas de nom, mais le pétrolier est responsable de beaucoup de pollution, etc. Et finalement, pour pouvoir réguler, parce que ce n'est pas les grosses sociétés qui sont là pour faire du bénéfice, qui vont se réguler elles-mêmes, la jeunesse dans la rue, c'est important, ça fait vivre un message, ça transmet un message, c'est très important pour nous de se faire entendre et justement, au moment où on se tait, on cesse de se battre. Mais quelque part, je pense que ça ne pourra pas passer sans des moyens de pression plus importants. Je ne sais pas si ça peut être politique, si ça peut être d'autres manières. Parce que finalement, si on change juste nous, ça ne suffira pas. S'il y a toujours les gros pollueurs qui sont les principaux responsables de la destruction de la planète, on va limiter le pire, mais à petite échelle.
Je rebondis sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est en fait je trouve qu'il y a un des problèmes quand même majeurs, c'est que on entend beaucoup que c'est le peuple au sens large, la France par exemple pour notre pays, les gens dans leur petite maison qui doivent faire des efforts sur leur consommation, alors qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas maîtriser et auxquelles on n'a pas accès non plus. Je pense notamment aussi à ce que tu disais, Younes, quand tu disais est-ce que pour boire de l'eau douce plus tard il faudra que je sois riche, et je suis d'accord avec toi parce que, enfin, je suis désolée, mais consommer bio, faut le reconnaître, consommer bio c'est pas accessible à tout le monde. Pour ma part, enfin, je pense que dans ma vie de tous les jours, ce serait pas possible. Enfin, famille nombreuse, on peut pas nourrir une famille nombreuse que de bio, à part quand on est une famille plutôt aisée, je pense. Et voilà, ça passe par des choses comme ça, ce qui fait que souvent, on peut dire aussi facilement, on entend souvent que c'est la faute du peuple aussi. Le peuple est responsable et doit se responsabiliser par rapport à cette cause, alors que c'est des choses qui, des fois, nous dépassent, qui font... à leur échelle, du coup, justement, à une plus grande échelle, cause des problèmes aussi dans cette thématique, et puis des choses qu'on ne peut pas modifier nous non plus, à notre échelle.
Les slameurs face à l'actu.
En plein dedans, là,
ouais. Une actu, un slam, et on poursuit. Donc, vous avez les lecteurs du Bondi Bloc Centre sur le www.bondibloccentre.fr ont vu un dernier post qui parle du harcèlement moral au harcèlement physique, qui parle donc du harcèlement scolaire. Et là, nous allons écouter Junkie Palace et son slam sur le harcèlement sur Internet.
À toi la petite merde derrière ton écran, qui t'en prend pour ce qu'elle est à cette femme. Tu n'as pas le centième de sa force, ni le millième de son cran. T'attaquer aux autres ne soignera pas ton bague à l'âme. À toi la petite merde, derrière les réseaux sociaux. Grâce à ton anonymat, tu te sens pousser des ailes. Mais dans la cage aux fauves, tu es un docile bestiau. Ton complexe d'infériorité te dicte tes tirades mortelles. À toi la petite merde, ce contact acide. Toi qui, pour un peu de pouvoir, agite les mots qui blessent, créant la passerelle du complexe au suicide. Tu es responsable, tu commets le crime, il faut que tu te confesses. À toi la petite merde qui utilise la misère affective pour ton plaisir, charnel, égoïste ou cupide. Satisfait, tu laisses place aux invectives. Tu t'enivres du malheur comme d'une goutte d'acide. À toi la petite merde, tu ne resteras pas impuni. Tu as beau jouir de ton anonymat, tu n'es pas invisible. Il n'est pas infini, c'est ce qu'a prouvé Nikita Bellucci. Un jour, je te le promets, petite merde, on en aura fini de ces nuisibles. À toi la petite merde, tu ne resteras pas impuni.
Bon, bah, les petites merdes se seront reconnues.
On espère,
ça c'est sûr.
Inutile d'appeler la radio, voilà, venir nous troller sur le site. Hein. Pourquoi ce slam ?
Pour plein de raisons. À titre personnel, j'ai des proches qui ont été victimes de harcèlement. qui s'en sont plus ou moins bien remis, qui ont réussi à passer outre quand ça arrive. Mais finalement, au quotidien, sur des causes engagées, sur des événements, comme vous avez évoqué la semaine dernière, la place de la femme, l'égalité homme-femme, etc., on a toujours, je reprends ce que je disais, des petites merdes qui viennent, qui, sous couvert d'humour, sous couvert de second degré, on voit pas à la radio, mais guillemets fait avec les doigts, mais de faux prétextes, pour cacher leur peur de perdre leur privilège, de perdre leur peur de perdre le pouvoir qu'ils ont, leur peur de perdre les avantages qu'ils tirent des potentiels complexes ou des potentiels de situations d'infériorité, et une fois encore je mets des guillemets, qui n'ont pas du tout la même valeur que peuvent avoir certaines personnes dans la société. Et au final, c'est une conséquence d'une cause qui est beaucoup plus large, qui fait que cette notion d'égalité qui est si chère à la France, vu qu'on l'a placée dans notre liberté, égalité, fraternité, c'est une belle utopie, mais finalement, dès qu'on peut, c'est pas une volonté tous, j'entends bien, cette égalité, elle saute et il y a des vraies victimes. Et moi, ça me pose un problème de me dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur de sortir de la rue, qui peuvent avoir peur de s'exprimer, qui peuvent avoir peur de poster une photo d'eux sur un réseau où ils sont censés avoir leurs amis et leur famille. J'arrive pas à comprendre ce climat d'oppression que des gens peuvent installer et qu'ils y trouvent plaisir. Ça m'échappe totalement.
La Ligue du LOL récemment.
C'est une des choses qui m'a fait réagir notamment.
D'accord. Des réactions ?
C'est vrai que le harcèlement sur Internet, c'est une dimension très, très particulière parce que, en fait, il y a cette sensation qu'on est invincible, en fait. Parce que, justement, il y a cet écran qui protège. Et même, je pense, d'une manière plus générale, la communication sur Internet fait qu'on se sent protégé et qu'on se sent, entre guillemets, libéré de certaines contraintes que l'on a, en fait, dans la communication. Physique avec quelqu'un, on a beaucoup moins peur de la réaction de l'autre lorsqu'on va dire ce qu'on pense. Et puis il y a tellement de dérives des réseaux sociaux, comme tu disais. Enfin, il y en a tellement que, en fait, ça laisse place. On va parler de la liberté d'expression, et finalement, cette liberté d'expression prend une tournure qui devient malsaine, parce que, en fait, je pense qu'il y a des gens qui rentrent dans cette liberté entre guillemets d'expression en disant des propos qui sont vraiment choquants et qui peuvent atteindre les autres, sauf que cette dimension d'Internet fait qu'on n'arrive plus à mesurer, en fait, ce qui peut blesser l'autre et dans quelle mesure il ne faut pas le dire, parce qu'on ne voit pas la réaction de l'autre non plus en direct, on voit pas dans quelle mesure ça l'atteint. Et voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment, pour moi, c'est le cœur, en fait, du harcèlement sur Internet, du cyberharcèlement. C'est qu'on ne peut pas mesurer comme on pourrait le mesurer dans un contact réel.
Au final, on se retrouve avec une espèce de normalisation de ce qu'il y a aux États-Unis, où ils ont le droit de dire à peu près tout ce qu'ils veulent sous couvert de la liberté d'expression, et la loi les protège, que ce soit racisme, sexisme, homophobie, etc. Et au final, ça s'est généralisé au niveau mondial, des choses qui, à l'époque, on ne pouvait pas dire, vu qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus grand, qu'on est sur des choses qui sont des plateformes mondiales, justement, la notion de pourquoi un endroit on peut le dire et pas d'autres devient vachement... Les frontières deviennent vachement plus floues, et donc ça pose beaucoup plus de problèmes.
Les règles déontologiques sont souvent calquées sur le modèle américain, ce sont les entreprises américaines, ces grands réseaux sociaux. Ils ne sont pas forcément adaptés, j'allais dire, à la constitution ou à la démocratie des pays dans lesquels ils se développent. Enfin, je pense à...
Oui, après, c'est vrai que, comme tu dis, ça se calque sur le modèle américain, mais c'est vrai qu'en France, on a quand même nos lois. Et dans nos lois, tout ce qui est harcèlement est puni par la loi, répréhensible. Du coup, c'est ce qu'on peut conseiller aux auditeurs, qui peuvent être victimes de ça ou qui ont des amis qui sont victimes d'harcèlement, c'est de signaler, c'est d'aller porter plainte, de signaler sur les réseaux. Il n'y a que comme ça que les choses pourront avancer. Parce que sinon, c'est vrai qu'ils sont protégés par leur écran et que s'il n'y a rien qui bouge, ça n'avancera pas. Donc je parle d'harcèlement, on parle d'harcèlement Internet, mais bon, l'harcèlement scolaire, l'harcèlement en général, c'est des choses qu'il ne faut vraiment pas oublier. Faut dénoncer. Si on voit des jeunes qui sont victimes, on dénonce. Et moi, c'est ce que je travaille avec des jeunes, je travaille avec des dans une prison, je fais des ateliers d'écriture et c'est vraiment le message que je passe à chaque fois. C'est celui qui est victime, il faut qu'il en parle. Ceux qui voient la victime en souffrir et qui rigolent à côté, qui pensent que non, vous pouvez être aussi puni par la loi, le fait de ne pas agir. Et du coup, voilà, je pense que tout ce qui est harcèlement, internet ou pas, il ne faut pas avoir peur d'en parler et d'aller porter plainte si ça prend une tournure trop importante, parce que, comme tu dis dans ton texte, ça peut mener à des fins tragiques. Moi, j'en ai vu en prison, il y a pas mal d'harcèlement, pas mal de choses qui se jouent. Et j'ai vu, oui, des suicides qui sont, voilà, qui ont été réels et qui sont allés au bout à cause de ça. Alors que ça aurait pu se régler différemment, je pense.
Oui.
Je me permets de rebondir encore sur, tu disais, le fait d'aller porter plainte. Au final, aujourd'hui, souvent, en fait, les gens disent que porter plainte, c'est difficile, parce qu'aller porter plainte contre Pikachu 75, c'est compliqué. Et en fait, quelque chose qui, je pense, a pas mal changé la donne en France, c'est l'affaire Nikita Bellucci. Je ne sais pas si vous voyez ce qui s'est passé. C'est une ancienne actrice porno qui, du coup, s'est fait harceler pendant des mois par des internautes, et notamment des gamins de genre de 14 ans qui lui envoyaient des menaces de mort à base de mots très fleuris. Et donc, du coup, finalement, elle a porté plainte. Et le jugement est tombé, donc il y a des gamins, alors ils sont tombés sur des peines symboliques, mais ça représente beaucoup de choses. Ça représente que la loi a pu faire tomber l'anonymat d'Internet, et ces gens qui faisaient des menaces de mort, qui harcelaient, qui, voilà, sont pas restés impunis. Donc finalement, je pense que cette affaire a pas mal fait évoluer les choses, c'est-à-dire que du coup, ça permet de dire aux gens qui subissent ça que finalement leur plainte, elle peut être entendue, même si sur le moment, on sait pas qui c'est. Et je pense que ça peut permettre de faire avancer les choses sur la durée. Et je me permets de rebondir aussi sur ce que tu disais. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'est une citation qui disait « Si vous n'êtes pas du côté de la victime, vous êtes complice du coupable. Oui. » Et au final, c'est un peu ça.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dimension même qui, aux yeux de la victime, fait que le témoin qui se tait devient, au-delà du complice, un agresseur. Parce qu'il cautionne, en fait. Et j'ai été victime de harcèlement au collège. Au-delà du cyberharcèlement, c'est vrai que c'est vraiment comme ça, en tout cas que moi, personnellement, je l'ai vécu, c'est de se dire, mais celui qui regarde, celui qui voit et qui ne dit rien, cautionne. Et le fait de cautionner fait de lui-même un agresseur, puisqu'il ne me défend pas et qu'il me laisse seul. Il me donne cette sensation que je suis encore plus seule, finalement, parce que lui regarde et il se tait. Et il voit que moi, je n'arrive pas à dire, et lui, il ne dit rien non plus, alors que lui, il n'est pas victime. Du coup, on se dit que lui, il pourra avoir peut-être plus de force que nous, on en a, ou être cette épaule qui nous permet à nous de trouver la force. Et c'est pour ça, je pense qu'on peut même dire que ça, aux yeux de la victime, ça peut devenir un agresseur. Et je rebondis sur ce que tu disais, Ange, au niveau du dépôt de plainte. C'est parfois très compliqué. La police conseille parfois ce qui m'est arrivé personnellement, de ne pas porter plainte. Tout simplement pour pouvoir garder, préserver notre intégrité. Moi, on m'a clairement conseillé de ne pas porter plainte pour pas que je me fasse tourner dans une cave ou qu'on me tabasse à la sortie, concrètement. Donc, c'est pas toujours évident, mais par contre, ce qu'on peut faire, et ça, j'aimerais vraiment que ce soit entendu par tous, c'est qu'on peut au moins déposer ce qu'on appelle une main courante au commissariat. Et c'est-à-dire qu'une main courante, la personne accusée, entre guillemets, concernée par les faits, ne sera pas au courant de cette trace écrite. Mais cependant, cette trace écrite restera au commissariat et conservée. Et comme ça, si un jour il y a des faits qui sont renouvelés ou plus graves, et qui doivent amener un dépôt de plainte, ce seront des faits qui seront ajoutés et qui permettront aussi à la victime d'avoir plus de poids, parce que justement elle aura engagé des démarches et que elle aura attesté en temps, enfin avec une date et de manière officielle dans un commissariat, ce qui a pu déjà lui arriver. Voilà.
Moi, je voulais prendre l'exemple de Bilal Hassani dernièrement, quand il a gagné
l'Eurovision,
oui, voilà. Quand
bah
il
oui,
a
le chanteur français, bah ouais, qui a défendu. Bon, après c'est l'Eurovision. Enfin, on est pour ou contre?
Je sais pas trop.
Par contre, on est pour Bilal Hassani parce qu'on est chauvin et puis que si la France elle pouvait gagner, excuse-moi, Younes.
Non, mais ça me fait rire. Oui, par rapport à ça, c'est que Bilal Hassani, il a quand même vécu un harcèlement sur les réseaux sociaux qui était très très important, des menaces de mort, de l'homophobie, c'était vraiment très très important, et il a quand même déposé plainte. Je trouvais que c'était courageux de sa part, étant qu'artiste jeune, de déposer plainte et être face à ses agresseurs. Je trouve que c'est important pour lui et pour sa carrière aussi.
Tout à fait.
Ouais, ça a été triste de voir ça, quoi.
Oui, c'était triste.
Enfin, la seule chose à la rigueur qu'on aurait pu lui reprocher, c'est peut-être sa voix ou ses textes, comme tous les chanteurs de l'Eurovision qui se succèdent. Mais non, c'est parti loin sur une homophobie.
Non, mais je suis tout à fait d'accord
aussi. Enfin, voilà quoi. On l'a pas jugé sur ce qu'il était, hein, un chanteur qui se présente à l'Eurovision.
Oui,
mais seulement sur les apparences. J'ai même entendu des commentaires sur sa coupe de cheveux. Enfin, c'était n'importe quoi.
Et puis on rentre dans un truc où quand on n'est pas d'accord, on est obligé d'insulter et de faire mal à l'autre. On ne peut pas dire « je ne suis pas d'accord ». On est obligé de rabaisser l'autre parce qu'on n'est pas d'accord.
Je me permets juste de rebondir justement pour une note un peu plus positive. J'utilise beaucoup Twitter. Et quelque chose qui était quand même très beau à voir, et du coup, bon, lui, après, c'est dans son intérêt aussi d'entretenir sa fanbase, mais il y avait beaucoup, beaucoup de gens, même des gens qui n'étaient pas particulièrement fans de lui, qui aussi lui adressaient des soutiens. Alors oui, c'est quelqu'un de connu, le harcèlement, ça touche pas que les gens connus, mais c'était quand même positif de voir qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui s'offusquaient de ça et qui, du coup, le soutenaient. Et quelque part, ça apportait un point positif... je dis pas qu'il faut qu'il y ait du harcèlement pour qu'il y ait du positif, loin de là, mais ce que je veux dire, ça a quand même montré aussi que tout le monde n'allait pas dans cette direction et qu'il y a encore des gens qui ont conscience, qui ont de la conscience et des valeurs.
Ça rassure.
Oui.
Ouais.
Slam Actu, le slam face à l'actu. On termine tout à l'heure. Tu nous as parlé, Al Pacino, de communication physique, justement, qui n'existait pas face aux écrans, et également de liberté d'expression. Et là, tu vas nous interpréter un slam sur l'art.
C'est ça. Ils respectent toujours l'art, cet art qui ne respecte pas les règles. Il en possède 20, mais les hommes et les femmes sont libres. L'art les possède. Mais les règles, en vain. Ce n'est pas en vain qu'il libéra sa plume pour la première fois. La première fois, sa première fois. Sur la scène, la première voix, c'est lui. C'est là qu'il trouva sa voix, sa loi, sa vie, c'est lui. Il brille d'une lumière qui vous donne les larmes aux yeux. Il utilise des sons qui font monter les âmes aux cieux. Parce qu'il apaise, parce qu'il vous libère de ces poids qui pèsent. Il livre des phrases, délivre ses phases, lit les mots et délie nos mots. Il trouve la solution sans même l'avoir cherchée. Il donne la seule leçon sans même l'avoir prêchée. L'art le possède et c'est sa plume qui parle. Peut-être devient-elle humaine, ou peut-être que l'homme part et que lui devient-elle. Au bout de 3 minutes... 3 minutes seulement. Mais que devient-elle ? Elle ou il ? Je ne sais plus, car ils m'ont donné des ailes et je suis partie loin sur une île. Et j'ai rêvé qu'on voyageait tous ensemble sur cette même île et qu'on s'en foutait, que ce soit elle ou il. Et pourquoi pas elle ? L'île est si belle. Je la trouve parfaite, juste faite, pas surfaite. Parfaite même en survette. Lui devient l'autre et il nous parle, mais son message dépasse sa parole. C'est fou ce que ça me parle et c'est même pas un SMS ma parole. Il est magicien quand il dessine dans l'air avec l'air de ses expirations. L'air du temps expie et se voit rythmé par ses inspirations, son inspiration. Il fait vibrer ses cordes vocales et fait vibrer ma corde sensible. Il nous touche, c'est irrévocable. Il tire sur les câbles. Et trouve le bon fil, celui qui nous fait tous nous taire et nous laisse en suspension. À cet instant, au-delà de nous plaire, il devient notre seule source de sustentation. L'art est bobo, l'art soigne les bobos. Et lui, il a l'air de comprendre l'art, il prend l'air, le respire, le souffle, et c'est son art. Alors les sons arrivent, à l'heure où tout est calme, dès lors où dans son cœur, il fait noir. Dehors le temps passe mais on ne le ressent pas. Le temps l'évite et les tic-tac s'évitent. Les mots s'invitent, l'émotion prend proportion. Il déclame pour vous et rien n'est donné en échange. Les temps changent, les temps ont changé. L'échange, lui, c'est son or. 3 minutes passent et c'est son heure. L'âme redescend et se faufile jusque dans mes mains. Je fais claquer mes doigts. pleine d'émotions. Sa première fois, il ne l'aura pas fait en vain. Merci.
Des réactions ?
Merci, si personne veut réagir, je sais pas trop comment je dois.
Il est temps de digérer ce texte. Oh. Non, des réactions sur ce texte, je trouve moi je trouve qu'il est magnifique. Oh, du coup, ça définit bien l'art, notre art et tous les arts en général. Et du coup, je te félicite, ça me fait plaisir d'entendre ce genre de texte aussi.
Bah, merci, cool. Ça me touche. Venant d'une, je pense, on peut le dire, figure du slam. Ah si, pour nous, sur Orléans, je suis désolée, quand on entend le mot slam, on entend ange, quoi, quand on entend...
Je vais préciser pour les auditeurs, parce que là, on fait passer pour une légende vivante.
C'est vrai, c'est une réalité, quoi.
Mais ça, pour nous, ça l'est, en fait.
Non, mais j'explique, c'est que, voilà, on va parler du coup du slam à Orléans, je vais en parler rapidement, parce que, voilà, on me présente comme une figure. En fait, c'est que j'ai été un peu la transition entre la première génération de slammeurs orléanais et la dernière génération qui est assise à côté de moi aujourd'hui. C'est vrai que le slam est arrivé à Orléans début des années 2000. Il y avait un collectif qui s'était mis en place vers 2004-2005 à Orléans qui s'appelle le collectif Crescendo, dont j'ai fait partie. Du coup, il y avait des slammeurs comme Sadou Souleymane Mané du groupe Sadia à Orléans. Il y avait Émilie Nabli qui était là, il y avait Florian François qui est maintenant parti au Canada, qui avait monté ce collectif vraiment pour qui ont créé une première scène slam à Orléans. Du coup, qui jouait dans des lieux, il y avait la salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle, il y avait au Pays de Marie qui est une espèce de petite brocante rénovation de matériel dans le centre d'Orléans. Il y avait déjà la Java Pop, il y avait qui avait un autre nom, je crois que c'était le Beach Café. Il y avait le Cinéma des Carmes, voilà, il y avait des lieux où essayaient d'apporter le slam. Du coup, ça a duré pendant quelques années. Il y a aussi les premiers ateliers d'écriture menés dans les écoles. Et voilà, et du coup, j'ai connu cette... je ne suis pas connu au départ, mais je suis rentré dans cette association. Donc, j'ai fait des ateliers d'écriture avec Sadou. J'ai animé, organisé des scènes slam aussi à cette époque-là. Mais voilà, j'étais encore assez jeune, j'étais encore dans les études et tout ça, donc j'ai pas été au cœur du mouvement. Ça fait qu'à un moment, ces gens-là ont marqué une petite pause. Voilà, donc pendant quelques années, il y avait pas beaucoup de scène slam à Orléans. Il y avait vraiment une ou deux tous les 4-5 mois, c'était assez rare. Et à un moment, quand j'ai commencé à faire des scènes un peu en dehors de la ville, à voir un peu ce qui se pouvait faire ailleurs, à faire les championnats de France de slam, je suis revenu avec plein d'idées en tête et je voulais qu'Orléans soit reconnu à sa juste valeur, parce qu'il y a plein d'artistes, il y avait plein de poètes, il y a plein de chanteurs, plein de musiciens super intéressants à Orléans. Et je me suis dit, il va y avoir une scène à Orléans et puis on va se faire connaître au niveau national. Du coup, je suis allé voir Monsieur Paco, que je salue s'il m'écoute, hein, le grand frère. Et du coup, on a parlé de ce projet de scène slam orléanaise et puis il a été d'accord pour partir là-dessus. Puis ça a monté doucement. Il a fallu faire beaucoup, beaucoup de communication. Il a fallu vraiment faire preuve de beaucoup d'énergie. Au départ, on a commencé les scènes avec, on était une dizaine, une vingtaine. Et puis voilà, puis ça a pris de l'ampleur chaque mois. Et c'est vrai qu'on a pu après remplir la Java Pop et qu'on a pu... relancer le mouvement slam à Orléans et puis maintenant voilà il est encore présent avec des artistes comme Junkie Palace, comme Al Pacino, comme Younes, et c'était voilà, il y a Design, il y a Tom aussi qui sont là, on les salue tous. Et voilà, donc la scène slam est encore en vie malgré mon départ, parce que je suis parti sur Toulouse du coup il y a un an et demi, mais je vois que ça vit encore, je vois qu'il y a encore plein de beaux projets, je vois que le Slam Actus aussi un très beau projet, donc merci à vous de nous accueillir ici. Et voilà, j'espère que le Slam à Orléans continuera de vivre comme il vit actuellement.
Bah, c'est vous qui le faites vivre. Voilà, tant que vous avez un cœur qui bat. Est-ce qu'il bat au rythme de l'actualité quand même. On a parlé de l'art, de la rue, harcèlement sur Internet, écologie, que des thèmes d'actualité. Vous vous nourrissez de l'actualité.
Sans vouloir monopoliser la parole, je crois que c'est un peu l'identité du slam orléanais. Voilà, j'ai fait beaucoup de scènes slam au niveau national et c'est vrai que dans d'autres villes, il y a un peu un côté poète. Comment dire ?
Poète du quotidien, poète journaliste.
Poète classique, poète de la poésie esthétique, d'accord. La poésie philosophique.
Engagé.
philosophique. Dans les autres villes, c'est plus ça. Et c'est vrai qu'à Orléans, on est quand même sur ce côté engagé. On déclame pour défendre des causes, on déclame pour dénoncer des choses. Et je sais pas forcément, ça c'est pas moi qui l'a insulté, même si moi, c'est vrai que c'est ma façon de voir le slam. Les gens de qui je me suis inspiré sont aussi dans cette dynamique-là. Et j'ai vraiment l'impression que on est dans une optique de dénoncer, de dire les choses. Et pas mal de manifestations, ce qu'ils font à Orléans, c'est sur des thèmes assez sérieux comme ça.
Ah non, je croyais que tu voulais réagir. Junkie Palace.
Par rapport au texte, de manière générale, et ce que disait Ange, ça soulève un point assez intéressant, parce que le sujet, c'était l'art quand même de manière large. Donc nous, on parle de slam, mais l'art de manière large. Et en fait, je trouve ça intéressant de voir comment notre perception de l'art a vachement évolué. C'est-à-dire que finalement, l'art a toujours eu sa place dans l'histoire, de manière générale. Je veux dire, on se rappelle que les hommes des cavernes dessinaient des trucs sur leurs murs avec des petits bâtons de cendre. Finalement, l'art a beaucoup évolué, l'art a permis plein de choses. Et au final, l'art a toujours un peu influencé l'histoire et la société. Disons qu'à une époque, peindre une femme nue, qui n'était pas une déesse ou autre, c'était un scandale d'État, c'était genre une rébellion totale, etc. Et en France, on adore parler de notre siècle des Lumières avec la littérature qui a porté la Révolution, etc. Et finalement, aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression qu'on cherche à désacraliser cet engagement que peut avoir l'art, toujours au sens large, en parlant beaucoup plus de l'esthétique, de ces choses-là. Et on oublie fondamentalement que l'art a toujours puisé ses sources dans la politique, dans la révolte, dans les engagements, etc. Et que aujourd'hui, il existe toujours, même si on les met moins en lumière, de très bons artistes engagés, que ce soit dans la musique, j'ai deux noms qui me viennent en tête, là, comme Kerry James ou Kenny Arcana, par exemple, que ce soit au cinéma, etc., avec certains documentaires qui mettent en avant des phénomènes de société, etc. Voilà, qu'il y a toujours eu dans l'art ou dans la photo des choses qui mettaient en avant l'actu et dans l'art.
Merci Junkie Palace, merci Al Pacina, merci Ange et merci Younes d'avoir participé à cette émission.
Alors pour conclure, j'aimerais dire que, en effet, comme disait Ange, la scène slam orléanaise, la petite flamme est toujours présente, hein, et on espère pouvoir la raviver pour qu'elle soit encore plus grande. Et pour cela, on va peut-être dire que Younes et Design sont en train de nous préparer un très très beau projet. Donc je vous parle pas trop, hein. Quand ça se concrétisera, etc., on vous donnera plus d'informations. Vous pourrez suivre ça notamment sur ma page Facebook que j'ai créée il y a pas longtemps, Al Pacino officiel, comme ça se prononce, comme Al Pacino mais avec un A. Merci au Body Block Centre d'avoir bien voulu nous accorder cette émission, hein, qui nous permet de faire connaître le slam et d'y faire un lien avec l'actualité, parce qu'on est tous concernés. Et puis aussi prochainement de nouveaux événements slam qu'on espère apporter. Merci à tous.
Merci.
Merci.
Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Block Centre.
Bondy Block Café.